Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme, une vraie, justement, qui, lorsqu'elle décide de prendre les choses en main, elle les prend à 100%. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lella Nadia Lakzir, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie Lella Nadia.
Je suis ravie qu'on en discute aujourd'hui.
L'Alertec. Alors moi, je suis ravie et je suis fière en fait aussi parce que quand j'ai une femme qui me recommande une autre femme et qui me dit « cette femme m'a marquée », elle m'a impressionnée, elle m'a inspirée et je souhaite te la proposer, Yasmine, et elle va inspirer beaucoup d'autres femmes. Et c'est le cas pour vous, justement. C'est une dame qui a pris contact avec moi pour me dire « je souhaite te proposer une femme qui m'a vraiment inspirée ». Lella Nadia, est-ce que vous savez que vous êtes une source d'inspiration pour d'autres femmes ?
Ok, ça fait plaisir. Comment dire, les cadres-là, de toutes les façons, ça me fait trop plaisir. C'est très, très chaud.
Oui, mais vous savez, justement, que vous êtes une source d'inspiration pour d'autres femmes ?
Oui, je le vois déjà à travers mes clients,
oui.
Mes clientes. Donc, de toute façon, quand je les rencontre et je les vois, je les accompagne, ils le disent. Mais c'est une responsabilité en quelque sorte.
C'est
donc,
ça, exactement.
À chaque fois, je dois innover, je dois donner plus d'inspiration. Franchement, mais c'est dans le bon sens.
C'est dans le bon sens. Donc vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous accompagnez des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien ça?
Oui, exactement. Moi, brièvement, je vais vous dire pourquoi j'inspire les gens déjà. Parce que là, quand j'accompagne les gens, je partage tout ce que j'ai fait, ce que j'ai parcouru comme parcours qui n'était pas aussi simple. Donc, à travers un long parcours, il y avait beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites, beaucoup d'émotions, beaucoup de chutes libres et de reprises. Et là, aujourd'hui, la mission finale, ce que je suis en train de faire, un projet parmi d'autres, j'accompagne les entrepreneurs et les small business, même les entreprises en tant que consultants, à développer leur business. Et surtout pour la partie développement des ventes. À travers les nouvelles technologies, qui est le digital, bien évidemment, et en capitalisant sur le offline. Voilà, donc c'est ma mission exacte aujourd'hui avec les gens. Pourquoi je les inspire ? Comme je vous ai dit, donc...
Je vais t'aider avec les chutes libres. Beaucoup de chutes libres.
Non, parce que justement...
C'est les chutes, libre. En fait. C'est, plus la chute est libre, plus on rebondit bien après. Plus là où...
On rebondit de façon très forte.
Très forte,
donc, après,
exactement.
Rien ne nous...
Fait peur.
Après, exactement, rien ne nous entrave à faire quoi que ce soit, à franchir n'importe quel pas. Donc, pourquoi j'ai dit chute libre ? Je ne vais pas vous raconter depuis le départ parce qu'on ne va pas finir. Mais déjà, moi, j'ai fait le salariat pendant 15 ans.
Ah.
Et j'étais dans des postes de management. Je faisais tout ce qui est achat et vente. J'ai fait la moitié de la carrière dans supply chain management. Après, je suis passée à l'autre phase qui est la vente. Et c'était bon. J'ai passé beaucoup de d'opérations de vente, de lancement et tout dans des multinationales, entre autres Inuit, Meditelecom à l'époque, Macro quand ils étaient Macro. Et voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2011.
Pourquoi?
Depuis 2011. Pourquoi? Voilà. Et là, vraiment, une tournure, c'était dans ma vie.
Ben oui, j'imagine 15 ans dans le salariat.
Exactement. Et puis, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout simplement, je vous l'ai dit, vraiment, c'est comme si je le vis aujourd'hui. Et un matin, il y a mon fils qui voulait aller à l'école, parce que j'ai deux enfants, et qui voulait aller à l'école, ils avaient une fête.
Oui.
Une fête traditionnelle.
Hein.
Et bien sûr, je ne me suis pas prise la tête la veille, toujours occupée des commissions, les voyages, tout ce que tu veux dans le salariat, dans des postes de management.
Ouais.
Alors, je suis partie le matin, je voulais lui mettre son djellaba pour la fête traditionnelle. Je la trouve au-dessus de ses genoux. pas rendu
compte.
compte.
Ouais.
Imagine, je ne me suis pas rendu compte parce qu'il y avait ma mère qui m'aidait pour ça, pour les enfants, mais pour donc je ne faisais pas attention. Et je me suis vraiment, c'était un déclic, une claque plutôt. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Il y a mon fils qui a grandi. La hauteur, je la vois, elle est devenue très courte. Donc, c'est des années. Donc,
Donc ça fait des
deux
années que je me suis
ans.
pas occupée de mon enfant, que je lui ai pas acheté. Je
Exactement.
l'avais dit d'un que
Exactement. Deux ans. C'était 2 ans que ça a pu nous dire quand ils ont l'âge de 8 ans, 7 ans, ils grandissent rapidement. Donc, c'était 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Ah, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'arrête les choses et je fais un petit peu de recul pour voir où je vais. Où je vais, parce que ce n'est pas possible.
C'était le
Et là,
premier,
j'ai
ce
décidé.
bac-là, c'était l'aîné?
C'était le premier,
C'était
c'était
le
l'aîné,
premier.
effectivement. Effectivement. Et c'est là où j'ai arrêté. Je me suis dit, stop, Nadia, il faut que tu fasses autre chose. Il faut que tu t'occupes de tes enfants.
Blatila Nadia.
Et
Alors, Blatila. L'épisode d'El Jlaba, ah, stop, il faut que tu arrêtes. C'est pas facile parce que pendant 15 ans, vous aviez une vie, vous avez bossé dans des grands groupes, vous aviez des postes, vous étiez femme active, vous étiez une femme indépendante financièrement. Et puis, il y a cette
Exactement.
prise de conscience. Mais comment vous êtes arrivé à vous dire stop, j'arrête? Stop, j'arrête.
Alors,
C'est-à-dire, j'arrête aussi
voilà.
ma vie à l'extérieur de la maison, en quelque sorte.
Oui, non, parce que quand j'ai dit j'arrête, je ne veux pas arrêter pour rester à la maison. Je suis pas du tout une femme qui peut rester à la maison, à la date d'aujourd'hui. Donc, mais parce que tout le monde me disait, pourquoi tu ne te lances pas dans tes propres affaires? Tu bosses beaucoup, tu bosses de façon très engagée, tout ce que tu fais, et tu peux le faire pour toi-même. Et j'avais peut-être, à chaque fois, j'avais un matraquage de mon entourage, les gens que je connaissais, des clients, des fournisseurs, des amis et tout. Ils me disaient que si tu te lances toi toute seule, ça va être trop, trop bien. Moi, je suis tranquille dans le salariat aujourd'hui, j'évolue d'un poste à l'autre et tout ça, c'est pas. Et donc, le fait de prendre la décision, pour moi, c'était pas un risque de ne pas me retrouver
C'est
financièrement.
ça, je comprends. Je
C'était un
comprends.
choix. C'était juste un choix de changement de mode de vie.
De vie,
Mais
c'est
ça n'a
ça.
jamais été exactement. Au moins que je vois des choses qui sont internes, que je vois mes enfants, que je vois ce qu'ils font, je vois parce que
Peut-être être plus libre de
j'étais
la
là.
gestion de votre temps, en fait. C'est ça, en général, qu'on peut chercher dans le salariat. C'est ce que les gens me disent à travers les interviews, que ce soit les hommes ou les femmes. On me dit, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même s'il y a des périodes où on peut travailler beaucoup plus que quand on est dans un salariat, mais on reste maître de son temps. C'est-à-dire, je peux en...
La vérité de ça, hein, je vous dis clairement. Et dans l'entrepreneuriat, tu travailles plus que le salariat. Sauf que physiquement, tu es plus à la maison que dans ton affaire. Mais mentalement, tu es tout le temps dans ton affaire. Mais au moins, tu es présente. Au moins, tu peux gérer le temps. Mais dans le salariat, tu as des heures limitées quand même. Tu travailles, mais tu es obligé de travailler 16 heures. Il n'y a pas de flexibilité. C'est-à-dire que la journée, c'est la journée. C'est le soir, c'est les enfants, ils dorment, ils dorment. Donc, par contre, dans l'entrepreneuriat, je peux l'emmener à l'école, je peux rester avec lui, je peux lui faire des choses dans l'après-midi, si là, le mercredi après-midi, et puis je peux bosser le soir quand il dort. Donc, il y a une certaine flexibilité qui te permet d'être présente
Ah,
avec
tu
eux.
sais, en discutant avec vous, Lala Nadia, je me rends compte que toutes les personnes qui ont fait, vous le dites, Yek, vous dites quand on est dans l'entrepreneuriat, on travaille encore plus que quand on est dans le salariat. Mais toutes les personnes que j'ai interviewées et qui ont fait un burn-out, personne n'a jamais fait de burn-out quand il travaille pour lui-même. En fait, et pourtant, à vous entendre, on travaille plus quand on travaille pour soi.
Exactement.
C'est pas la charge de travail qui dérange finalement.
Non, du tout.
C'est pas la charge, c'est pas la quantité de travail, c'est l'environnement dans lequel on travaille qui va venir trigger, déclencher un burn-out.
C'est le mental.
C'est le mental. Et pourtant,
C'est le
dans
mental.
l'entrepreneuriat, le mental travaille encore plus que dans le salariat. À vous
C'est pas la même
entendre,
chose.
c'est pas la même chose.
Oui. C'est pas la même chose du tout. Quand on travaille pour soi, c'est que tu te permets d'arrêter, de dire oui, de dire non. Surtout, 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 si tu travailles sur le mindset avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est important. Parce qu'au départ, quand je suis lancée dans l'entrepreneuriat, franchement, je me suis concentrée sur le business qui fait gagner de l'argent, comment vendre, comment développer. Et effectivement, c'était le cas. Mais après, quand j'ai eu la chute libre, quand j'ai eu la chute libre entre 2011 et 2014, 2011, j'ai lancé. OK? J'ai lancé deux business. La distribution, j'ai mis des points de vente, j'ai mis la distribution des produits importés et j'intervenais dans des séminaires. Je faisais toujours les formations dans mon domaine de compétences. Je voulais rester connectée avec le savoir-faire du salariat quand même.
Oui, oui.
Donc, en 2011, j'ai bien démarré. C'était trop bien le lancement parce que je savais acheter, prospecter et importer et je savais vendre. Donc, il n'y avait pas de problème en termes de développement en vente. Mais en 2014, les trois ans, c'était trop bien. En 2014, c'est le pic des ventes. Je faisais des chiffres, un chiffre d'affaires impeccable. Mm. En 2014, j'ai été rapprochée par un franchiseur et l'effet de l'objet brillant, quand il arrive, ah, je vais grandir mon business, je vais faire l'extension, je vais faire autre chose. Et là où j'ai eu une vraie chute parce que je me suis lancée dans le deuxième business sans que je mette les règles de l'art pour le premier. Mmh. Je ne l'ai pas laissé autonome. Toujours, il comptait beaucoup sur moi et je me suis lancée dans le deuxième business. Et en 2015, j'ai fait la chute libre, vraiment.
C'est quoi la chute libre?
Dans les deux. J'ai fait faillite de tout. Mmh. Parce que quand je me lance, franchement, je passe rapidement à l'action. Je fonce. J'ai pas de problème d'argent. En général, quand je dis je vais investir tant, je n'ai pas de soucis parce que en quelque sorte, je sais vendre. En gros, quel que soit le produit ou le service, quelle que soit l'erreur que je vais faire et tout ça, je sais vendre. Il y a pas de problème. Mais là, il y avait des problèmes qui n'ont rien à voir avec la vente qui ont poussé à ce que je faisais faillite en fin 2015. Parce que le franchiseur, il y avait des règles juridiques que je n'ai pas supportées et pour lesquelles je ne me suis pas fait accompagner par des experts dans le juridique. Quand on arrive à un certain niveau de business, il faut vraiment être accompagné par les spécialistes de chaque matière pour ne pas remettre en cause tout ce qui a été construit. Et c'était ça l'erreur, c'était une erreur de franchiseur avec un franchisé et erreur fiscale. Le premier business dans le deuxième et le chiffre d'affaires, il a vraiment évolué ou l'a grandi. Et puis, on s'est retrouvé avec une gestion administrative qui n'a pas de solution. Donc, et l'impact, il était très fort. Donc, en 2016, bon, je suis restée pendant 3 mois vraiment en mode suspension totale. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai compris que le mindset joue un rôle important et je me suis inscrite dans des formations qui sont coûteuses hein, de l'étranger pour rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes choses, pour remettre à niveau mon mindset pour que je puisse travailler.
Alors, Léla Nadia, justement, comment vous vous en êtes sortie de tout ça? De cette chute libre, divorce, faillite, voilà. Comment, l'arabie, qu'est-ce que j'ai dit à Ras?
Ok. En 2016, comme je vous ai dit, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations, j'avais 0 dirham d'ailleurs. J'ai vendu mes bijoux pour faire les formations, les derniers bijoux. Mmh. OK? Je me suis inscrite dans des formations d'étrangers. Mindset, carrière, affaires, marketing digital.
OK.
Donc,
il y a des qui disent faire bête de vie.
Bête de vie.
Voilà. C'est au vrai sens du terme.
Et c'est la seule chose qui mérite parce que je sais que c'était un investissement.
Ouais.
Parce que même si c'est pour rebondir.
C'est ça, absolument.
Donc, j'ai casqué entre 2016 et 2017, j'ai fait beaucoup de formations. En 2017, j'ai lancé l'agence marketing digital. Donc, j'ai commencé à travailler. Lentement, tout doucement. Donc,
ouais.
Cette fois-ci, j'ai vraiment appris les choses, comment évoluer avec un taux de croissance raisonnable. C'est pas le... Donc, et en 2018, je me suis lancée dans le gros. Donc, quand j'ai fait le gros, la vente en gros, j'ai importé des conteneurs et je vends en gros, j'ai pas travaillé avec mon argent. Parce que dans les formations, j'ai bien appris, je dois capitaliser sur ce que j'ai. Je suis une bonne vendeuse. Donc, pourquoi je vais investir? J'ai bien appris comment je prends l'argent des gens et j'achète et je vends et je gagne. Et c'est ça ce qui m'a aidée. Donc, il y avait des investisseurs qui ont de l'argent, qui m'ont donné de l'argent pour importer. En 2019, je suis partie, en 2018 et 2019, j'ai importé de la marchandise de la Chine. J'avais des marchés ici à qui je vends. Et voilà, c'est là où j'ai pu récupérer une partie de mon capital. J'ai fait 4 opérations successives dans ce sens. Et j'ai pu avoir un capital qui m'a permis de rebondir de façon très sereine.
Avec, juste après, ça a été Covid, justement. Les frontières étaient fermées.
Effectivement. Après, c'était le Covid. Mais non, j'ai vendu en ligne. Donc, je me suis consacrée sur la vente en ligne de la marchandise. Même, pourquoi j'ai dit que les formations sont importantes? Normalement, s'il y a une autre personne dans ma situation, dans le Covid, elle allait encore tomber et chuter.
Ouais.
Mais ce que j'ai fait, j'ai revu la chose et j'ai pris la marchandise qui était destinée aux personnes ici en gros et j'ai pris une grande partie que j'ai vendue en ligne. J'ai fait les ventes en ligne.
Ouais.
Donc, je n'ai pas arrêté.
C'est ça.
Les ventes en ligne avec l'agence de marketing digital pour travailler pour d'autres personnes en ligne. Et voilà. Donc, depuis, alhamdoulilah, donc ça a bien repris. Jusqu'à 2020, je me suis lancée dans l'immobilier.
Justement, Lalla Nadia, pour vous qui avez vécu justement cette situation de divorce, de nafaqa, etc., aujourd'hui, on parle de la révision de la moudouana. Vous, en tant que femme qui a vécu cette situation, ça serait quoi votre rêve? Si on devait revoir la moudouana, ça serait quoi pour vous la meilleure révision possible?
La meilleure révision possible, c'est de laisser les enfants là où ils sont. Parce que c'est ça que je trouve injuste. Ils sont habitués à un certain niveau, il faut garder ce niveau-là. Parce qu'ils n'ont pas à subir ce qui se passe entre le couple. Et ça dépend, parfois il y a les deux qui s'entraident pour que les enfants aient un certain niveau. Et parfois c'est le papa qui prend en charge la majorité des charges. Mais les enfants ne doivent pas subir ça. C'est-à-dire que ça doit être variable en fonction de la situation du père.
Ouais.
Parce que cette histoire de donner du pourcent ou 15% ou 20%, moi, je trouve ça dépend. Si les enfants, ils font leurs études dans le système mission ou le système américain ou une école même bilingue aujourd'hui qui sont devenues trop, trop chères, on arrive à des montants quand même importants. Donc, il ne faut pas les bousculer.
Lalla Nadia, justement, aujourd'hui, la plupart des personnes que vous accompagnez, c'est des femmes ou bien il y a des hommes aussi?
Il y a des hommes. Non, il y a des gens, tout entrepreneur qui veut développer son business, je les accompagne pour mettre en place une vraie stratégie de vente, de marketing. Aujourd'hui, les personnes et les entrepreneurs, surtout la première génération, on va dire, ils ont du mal à s'adapter à la conjoncture actuelle et vendre en ligne. Et c'est là où c'est mon rôle, parce que comme on dit, Moussadrama, j'ai vécu les deux générations, les ventes classiques et les ventes en ligne.
Oui.
Donc, j'essaie d'accompagner les gens pour faire cette transition qui est importante.
Absolument, je comprends. Par rapport, justement, le fait d'avoir vécu les deux situations, le offline et le online, aujourd'hui, est-ce que c'est forcément, quand on veut vendre, est-ce que c'est forcément du 50-50?
Non. Pas forcément, ça dépend des produits, de l'activité, de la personne en elle-même, comment elle est familiarisée aux technologies et surtout de la cible à qui on vend. Parce que si on vend par exemple aux sociétés tout ce qui est B2B, on ne peut pas dire que le digital va fonctionner à merveille.
Oui.
Et aussi, quand on s'attaque au B2C, c'est le digital qui marche. Et il y a des produits qui doivent être testés sur place avant de les livrer. Donc, c'est le offline.
Exact. Mais la
meilleure des choses, c'est que la personne, qu'elle sache une stratégie qui doit être mixte pour tirer parti de chaque volet.
Exact.
C'est ça le plus important.
Exact.
Et c'est ça ce que les gens oublient. soit qu'ils partent au marketing digital pour, parce qu'ils entendent que c'est la tendance,
ouais.
soit qu'ils ne le font pas parce qu'ils ne croient pas à la chose.
Mm.
Mais il y a des stratégies mixtes ou la hybride, on va dire.
C'est ça.
Et en termes de proportion, ça dépend des produits et de l'activité. Donc, mm. pour qu'on puisse bien gérer et bien vendre.
En fait, c'est aussi la même chose avec les médias, parce qu'avec le digital, on se dit que le digital tue les médias linéaires et qu'on n'a plus besoin de médias linéaires, alors que ça dépend de quelle cible, ça dépend de quel produit, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Et comme vous dites, ce sont plutôt des stratégies hybrides qu'il faut mmh. mettre en place selon sa cible pour vous et selon
Exactement.
Son audience pour nous en termes de médias. Voilà. En tout cas, merci.
Et selon le budget qu'on
selon...
dispose. Selon les
oui,
budgets qu'on
oui,
dispose
oui.
aussi.
C'est ça, exactement. Mais c'est dommage que seul le budget détermine les canaux. Parce que mm-hmm. ça ne rend pas service, au final.
Mm-hmm,
quand c'est
exactement.
Le budget qui détermine les canaux. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion plurithématique. Nadia Drzel, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui avec tout ce potentiel de la femme d'aujourd'hui, justement. Merci beaucoup, Lala.
Merci à vous. Au revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.